bouillon de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour vous donner envie de le lire à votre tour éventuellement, et ce, tranquillement installé chez vous, à écouter Hervé ou Catherine vous lire quelques extraits. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Eh bien, puisque vous faites vos choix en alternance aujourd'hui, c'est je crois Hervé qui a choisi le roman.
Exactement. Et j'ai même choisi un roman dont j'avais annoncé le titre lors de la dernière émission du mois dernier.
C'est exact. À savoir ?
À savoir Le baiser dans la nuque de Hugo Boris. C'est un roman qui est paru en 2005 chez Belfond. Mais comme c'est un vieux roman, on peut le dire comme ça, il est maintenant, vous le trouvez facilement, en édition poche à pas cher.
D'accord, 2005, c'est donc une nouveauté que tu nous as trouvée.
je reconnais que là, j'ai choisi un vieux roman, mais c'est parce que nous venons d'entrer en 2020 et que 2020 est une année exceptionnelle.
Exceptionnelle,
c'est-à-dire que c'est le début de la dernière décennie où la planète Terre va être capable d'accepter la vie humaine.
Ouf, c'est très optimiste ce que tu es en train de nous dire.
Excuse-moi, c'est pas plutôt 2020, l'année des 30 ans du Robles ?
Ah oui. Oui, ah oui, c'est vrai.
Je rectifie
si on
un peu là, il est parti
dans,
un peu loin.
Dans le thème de l'émission, c'est on fait en 2020, on fête les 30 ans du prix Emmanuel Robles.
Emmanuel qui ?
Oh, mon Dieu.
Emmanuel Robles, mais alors c'est un prix qui a été créé dans la ville de Blois il y a donc maintenant 30 ans et je crois que la meilleure personne pour en parler, ça va être Catherine. Catherine, est-ce que tu peux nous dire exactement
en
quoi consiste ce prix Emmanuel Robles ?
Il y a 30 ans, on n'a pas créé le prix Robles.
Comment ça, on l'a
on
pas créé ?
On a créé le prix 1537. Ah, ça vous laisse baba. Hein.
Ah oui, j'ignorais.
Eh bien, ça, c'est une idée de bibliothécaire. Hein. Oui. En fait, 1537, c'est la date de création du dépôt légal par François Ier.
Damned.
En 1537.
1537.
Ah, oui. 1537.
Alors, pour la petite histoire, mais vous m'arrêtez si je suis un peu longue, parce que là, je peux parler des heures. Il y a donc pas mal d'années, plus de 30 ans.
À l'époque où nous avions un ministre comme
voilà,
maire.
Voilà, nous avions un ministre comme maire qui faisait tout pour qu'on fasse des choses exceptionnelles à Blois. Et entre autres, il avait demandé à l'Académie Goncourt de créer un prix littéraire et de le remettre à Blois.
À Blois.
Et
d'accord.
C'est à ce moment-là que les académiciens Goncourt ont créé le Goncourt du premier roman qui était remis à Blois. Première année, ça s'est passé comme ça. La deuxième année, les bibliothécaires, toujours des sortes de troubles faites là,
oui,
qui traînent un peu partout,
oui,
on dit
caractère.
C'est bien gentil ce prix d'académicien, mais nous, on a envie de faire un prix de lecteur. Donc à partir de la deuxième année, ils ont décidé que des Blaisois voteraient sur cette sélection Goncourt pour choisir de leur côté leur prix.
Un prix de chez nous, quoi.
Voilà. Et à l'époque, il s'appelait donc 1537. Et il a été baptisé Robles. Après le décès d'Emmanuel Robles, qui, je le rappelle entre autres, était un des membres de l'Académie Goncourt.
Voilà.
Et qu'il avait, séduit tout le monde par sa personnalité. Voilà, par son...
Eh bien, Dominique, on vient d'apprendre quelque chose.
Absolument.
Eh
absolument.
Ben, bien. C'était la page
pourtant,
culture.
Pourtant, on était nés à l'époque.
À peine.
Bien, et donc okay, pourquoi on parle de Robles
Parce que monsieur Hugo Boris...
Comme ça m'a été entendu de Robles, du coup j'ai choisi un livre qui avait été primé dans l'année 2006.
Voilà, c'est juste qu'on s'est perdu un petit peu en
voilà.
route.
C'était tout simplement. Disons qu'il a hésité entre 30 lauréats et il a pris celui-là.
J'ai pris celui-là, exactement.
Ouais. Voilà.
Il y a eu 30 nominés et j'ai choisi celui-là dans les 30 nominés.
Hugo Boris.
Hugo Boris, alors tu veux que je te cause un petit peu de la trame de ce roman ?
J'allais vous en prier.
Donc, Le baiser dans la nuque, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux personnes qui sont un petit peu esquintées par la vie. Et elles vont se rencontrer au cours d'un cours de piano. Alors, en effet, un homme et une femme, bah oui, c'est toujours comme ça. La femme, c'est Fanny. Et Fanny, elle va devenir sourde. Alors, avant de devenir complètement sourde, eh bien, elle décide de prendre des cours de piano. Et comme elle a rencontré Louis, le professeur. Elle l'a rencontré précédemment, on ne va pas dire dans quelles conditions, ça n'a pas d'importance aujourd'hui. Et qu'elle le connaît un petit peu, ben elle se dit, tiens, je vais aller prendre mes cours de piano chez Louis.
Elle va aller chez Louis.
Elle va aller chez Louis, exactement.
Mais voilà. Louis, donc, est lui-même un homme qui est un petit peu esquinté par la vie aussi, il faut le dire. C'est comme ça. Et donc, au cours de ses cours de piano, va naître une sorte de complicité pudique, c'est le mot que j'ai trouvé, Catherine, pudique, on peut le dire comme ça. Le roman est écrit tout en délicatesse, toujours avec des mots simples, délicats, bien choisis, presque mélodieux, je dirais, avec un ton assez juste. Et donc, il y a une petite romance, un petit peu tendre, à fleur de mots, qui va aller crescendo. Mais nous ne vous lirons pas la fin du roman, évidemment. Parce qu'au cours d'une heure d'émission, je le rappelle toujours, on peut lire au maximum quoi, 10 à 15 pages d'un roman.
Ah oui, on n'en lit pas beaucoup. Oui.
On n'en lit pas beaucoup. Donc on fait des choix. Donc, chers auditeurs, si vous voulez en connaître plus, eh bien, vous n'avez qu'à aller acheter le livre ou vous le procurer dans une bibliothèque.
Exactement.
Elle se gare dans une rue adjacente et fait le reste à pied, pour prendre le temps d'arriver, de se laver de la voiture. Elle tourne dans une impasse bordée de pavillons. Ils sont baptisés. Un nom sur chaque maison, les plus belles comme les plus banales. Une simple signature en fer forgé, avec une élégance toute méridionale. Elle dépasse l'Africaine, Saint-Michel, Ville-la-Denise, Petit-Mousse, Jeanne, pourquoi pas, des noms chantants un peu forcés, conçus pour l'été, jamais pensés pour l'hiver. Lui rappelle certains prénoms qui vieillissent mal, deviendront ridicules une fois l'enfant grandi. Il y a dans l'air une odeur entêtante de bois humide, les chocs mats d'une lointaine cognée. Le 37 est au fond de l'impasse, dissimulé derrière une grille qui ne laisse rien deviner de sa couleur d'origine qu'une palissade de roseaux tressés aveugle parfaitement. Précaution d'un autre temps, dont l'utilité semble contestée par un portail grand ouvert. Sans en avoir la preuve, elle parierait qu'il l'est depuis toujours. On voudrait le fermer à nouveau qu'il protesterait, ferait gémir ses gonds, refuserait d'aligner proprement ses deux battants, s'entrebâillerait avec obstination. Un portail victorieux qu'on ne ferme plus, parce que simplement on ne l'ose plus. Alors elle entre, encouragée par le hasard de cette invite. Du portail à la porte d'entrée, elle a cet avant-goût de jardin sauvage, laissé à l'abandon, dont elle devine qu'il contourne les murs et se propage loin derrière. Elle le ressent plus qu'elle ne s'en fait la réflexion. On n'y voit presque plus rien. Novembre est là. Un jour faux tombe tristement sur la végétation, annonce la proximité immédiate de la nuit. Elle garde une main refermée sur son col, se prend à trembler.
« J'ai froid, j'ai froid, j'ai froid !»
se convainc-elle. La demeure ne se laisse pas facilement embrasser du regard, n'offre pas de façade franche, particularité propre aux maisons de plein pied qui ne connaissent pas d'escalier de plus de 3 marches. Des arbustes montent aux fenêtres éteintes. Cap Nord a été peint au pochoir sur 2 planches naufragées. Elle descend une volée de marche empierrée. La porte est un peu en dessous du niveau de la mer. Il lui faut du courage. C'est une porte infernale. Ce serait bien le diable s'il y avait quelqu'un. Elle se retourne. Elle ne s'est pas trompée. C'est bien le 37. Elle s'est retournée comme si elle pouvait le vérifier d'ici. Elle ne veut pas aller s'en persuader. Elle se voit retourner au portail puis revenir. Ce serait ridicule, vraiment. Personne. Elle frappe encore. Et puis, tant mieux s'il n'y a personne. Dans l'impasse, les lampadaires se mettent à grésiller, officialisent la tombée de la nuit. Elle va rentrer chez elle et elle sait très bien qu'elle n'aura peut-être pas le courage de revenir. Elle va rentrer chez elle en sachant très bien le risque qu'elle court. Mais elle est là, coincée entre un escalier dérisoire et une porte acculée dans le noir. Alors finalement, non, ça suffit.
Oh, je me rentre,
pense-t-elle pour se donner du courage. En haut de l'escalier, un homme immobile la regarde depuis toujours.
Oh, je suis désolée de débarquer comme ça à l'improviste,
souffle-t-elle.
J'ai eu votre adresse par Aurélie. Enfin, ton adresse par Aurélie. Oui, elle m'a dit de venir te voir. On s'est écrit cet été, je voulais des nouvelles de la petite et elle m'a dit de venir te voir.
C'est là qu'il a remarqué pour ses oreilles. Le regard qui glisse sur sa joue, entre-aperçoit, y retourne discrètement, confirme. Deux aides auditives, vaguement dissimulées sous les cheveux. Deux contours beiges qui enrobent le pavillon s'incurvent délicatement pour n'être plus qu'un simple tuyau transparent qui tombe soudain, plonge et se love dans la saignée de l'oreille. Autospongiose, la maladie de Beethoven, une maladie de femme qui se déclare pendant la première grossesse, gagne du terrain à chaque enfant, l'étrier qui se calcifie doucement, tout doucement. « Tu as des enfants ?» il demande.
« Deux. Un enfant, une oreille. »
ironise-t-elle. Toujours le même trait d'humour pour moquer le handicap, faire semblant d'eux. Il l'entend quand une chose est dite pour la première fois et il pense « Elle doit le dire à chaque fois. Un enfant, une oreille. À chaque fois. » Elle a pris son temps pour admettre. Elle regarde la télévision. Matteo, son fils, se trouve déjà le son trop fort. Elle appuie une fois de plus sur le triangle rectangle de la télécommande. Gamin insolent de 4 ans et demi qui la gronde avec sa voix de flûte. Boulgom et Baldo font la sieste, tu vas les réveiller. Deux oursons par qui la vérité se fait jour. Mais le roi n'est pas encore tout à fait nu. La pudeur reste sauve. Et puis elle est quelquefois surprise par l'arrivée d'une voiture. Elle survit. Au téléphone, elle ne comprend plus la voix de certaines personnes. La liaison est sûrement mauvaise. Au mariage d'Isabelle et Xavier, à table, elle s'aperçoit qu'elle comprend mieux les personnes dont elle voit le visage. C'est mieux de regarder les gens dans les yeux. Les vinyles de papa commencent à tourner dans le vide. Elle a des vertiges, de très curieux vertiges, où le monde se met alors à tourner, alors qu'elle se sent stable, bien droite pourtant. Elle demande poliment de répéter, puis termine les phrases toute seule, en devine l'intention. Et quand la conversation ne l'intéresse pas, elle s'efface en douce, bien pratique. Elle finit par exiger un bilan chez un spécialiste. Le diagnostic est sans appel. Elle n'est pas sourde, elle le devient. Mais voilà, elle n'ira pas aux obsèques. Elle a dit non merci. Vrai, c'est une teigneuse. Elle a décidé de faire le deuil d'abord, d'envoyer les faire part avant la mise en bière, de mettre la charrue avant les bœufs. Une idée à elle. Il lui met dans la main un verre de nectar multivitaminé bon marché. Il a du mal à comprendre. Elle veut apprendre à jouer du piano. Il a même souri à l'intérieur cynique, avec ou sans la sourdine. Mais c'est elle qui a l'air sérieuse, la garce. Elle veut apprendre à jouer. Elle l'a regardé droit dans le visage.
Avant qu'il soit trop tard. Assise sur la banquette, les reins symétriques, le dos droit, l'air appliqué. Il est assis à côté, sur une chaise pliante de camping, les jambes allongées devant lui. Il se cure la bouche d'un geste résolu. Elle fait ses premiers pas sur piano plaisir.
« C'est mieux. Tu es plus en rythme que l'autre jour. »
dit-il, la bouche pleine. Sa langue circule dans sa bouche, enfle ses joues, nettoie les dernières miettes. Il hoche la tête sans la regarder. À chaque accord plaqué sur le clavier, elle se penche légèrement en avant, naïve inclinaison du corps qui trahit plus encore ses premiers balbutiements. De temps en temps, fatiguée, tendue, elle retire ses mains du clavier et les étire. Elle les ferme, les déplie en donnant des chic notes de ses 10 doigts à la fois. Elle lisse sa chevelure des deux mains, recommence. Elle maîtrise déjà mieux la géographie de l'instrument, dresse un pont entre la partition et le clavier, fait correspondre la carte et son territoire. Mais les notes sont encore méthodiques, sans mouvement, bredouillées, fragiles, parfois méchantes. Elle tiraille le clavier comme un enfant agace une nappe et manque de tout renverser. Elle articule avec maladresse, ses mains lui obéissent mal. Lire de bas en haut, elle ne s'y fait pas. La main gauche en clé de fa et la droite en clé de sol.
Fais-le séparément, en lisant bien les notes. Fais d'abord la main droite.
Elle est troublée par la rigueur des dernières leçons, leur parfum scolaire sous des abords décontractés, alors que tout, de la pièce dérangée au jardin par la fenêtre, du tapis jamais épousté à la chaise de camping, invite à autre chose qu'à de la méthode.
Non, non, fais ce que je t'ai dit.
La carte n'est pas le territoire. Ça, c'est quand je me sens en confiance. Au début, je lis les notes et après, je suis en confiance. Je ne lis plus. Elle glousse. Elle rit comme on a plaisir à se tromper. Elle sourit sans ouvrir la bouche. Elle reprend. Elle le trouve sévère, moins fière qu'à une époque, sous les sialitiques. Mais elle lui reconnaît une élégance qu'elle n'avait pas évaluée jadis. Quelque chose de britannique, qu'elle a du mal à définir, sans doute pour ce mélange de politesse spontanée et de nonchalance étudiée. Surtout, il n'est pas si curieux d'elle. Il a posé les questions qui l'intéressaient et s'est glissé bien vite dans un habit commode. Il claque des doigts en rythme, sans le savoir. Elle se trompe, il a entendu, ne dit rien pour qu'elle rectifie d'elle-même, mais elle ne le fait pas. Il dit
« Non !»
en croisant les bras. Elle recommence. Il n'est pas si curieux d'elle. La question de son handicap est réglée. Ses appareils pallient suffisamment ses pertes auditives pour lui permettre d'écouter ce qu'elle joue. Elle n'est pas sourde. Alors il donne ses leçons comme à une autre. Et il y met trop de zèle à faire comme il en a toujours l'habitude. Il hoche la tête, mécanique, en pensant à autre chose. Et les photos? Celles de Laura qu'il proposait de lui montrer. Elle réclamera la prochaine fois. Oui, elle réclamera, non mais... Et elle demandera des nouvelles d'Aurélie pour lui rappeler qu'elle la connaît, qu'il se souvienne un peu qui elle est par rapport à eux. Elle dit « Jeudi, je ne peux pas ». Elle guette une réaction, de la déception.
« Ah bon, tu ne peux pas le jeudi ?»
Il y a quelque chose de contrarié dans la voix, mais qui n'est pas de l'inquiétude. Il a compris tous les jeudis. Si, c'est juste ce jeudi.
« Et mercredi, tu peux ?»
Se faire désirer un peu. « Oui, je viendrai avec Matteo. » C'est un beau piano droit Petrov, since 1864. Elle s'assoit sur la banquette rebondie, soulève la battante, plie grossièrement l'écharpe de feutrine verte, cherche la page, ménage un silence, aime ses premiers gestes. Elle a remarqué sous le clavier une minuscule serrure dorée où peut s'introduire une clé de secrétaire. Celle d'origine n'existe plus sans doute, condamnant le clavier au même destin que celui du portail, ouvert à jamais. Elle le regrette. Elle aimerait avoir à fournir ce mouvement supplémentaire, tourner une clé dans le couvercle en écoutant le cliquetis de la serrure, l'aveu de sa défaite. Que ce piano ait aussi un parfum prohibé, permette de rejouer à jamais la scène de l'interdiction que l'on méprise et transgresse. Certains jours, elle a un air de lycéenne appliquée, mais le plus souvent une attitude de colère concentrée. Quand elle n'arrive pas à faire passer une phrase, elle se trahit par des gestes nerveux et désajustés qu'elle réfrène aussitôt, que Louis fait semblant de ne pas voir. Elle joue autre chose que de la musique sur ce piano. Il y a les gestes nerveux et courts d'un combat déloyal, qu'importe. Le clavier s'affermit sous ses doigts. Son poignet gagne en souplesse, ses mains en élasticité. L'optimisme est terrible quand il est résigné. Elle respire mieux. Son jeu heurté s'arrondit. Une révolution mentale se fait doucement. Elle réussit à oublier le clavier. Elle oublie la mécanique de la touche sur laquelle il faut appuyer pour déclencher le marteau et cogner les fils d'acier. Elle parvient peu à peu à s'en abstraire, à s'imaginer que ses doigts touchent directement les cordes. Dans son jeu, cela s'entend.
« Tiens bien la note, sans presser la main gauche. Donne du mouvement à la ligne, sois pas mécanique. »
Le plus souvent, il n'est pas bavard. Un peu en retrait, il fait ce qu'il veut. épie sa nuque, ses reins, se balance, ou bien se tient très droit, très raide, étudie comment ses prothèses sont faites, l'encourage du menton, bâille discrètement, claque des doigts, croise résolument les bras et les jambes, avance un peu sa chaise, tourne les pages pour elle. Si l'une d'elles ne tient pas, menace de revenir, se penche, la remet en place pour lui éviter de s'interrompre.
Reste proche du clavier avec ta main gauche. Pose bien la reprise, là. Ne ralentis pas avant.
La leçon terminée, ils évitent de parler, avec cette sensation désagréable de la salle qui se rallume. Fanny est seule, elle se contente de sourire pudique. Il lui fait parfois un compliment, il lui donne du travail à faire chez elle, elle paye.
Lorsque j'entends sous prélude Bach, par Glamgould, ma raison s'envole vers le port du Havre et les baraques et les cargos lourds que l'on rafista et les torchères, les grues patraquent les citernes de gasoil. Lorsque j'entends ce prélude de Bach par Glenn Gould, ma raison s'envole et toutes ces amours qui se détraquent et les chagrins lourds. Et toi, les pieds dans le flac, et moi, et ma tête à claque, j'ai pris les remorqueurs pour des gondoles. Je traîne ma casserole dans cette décharge de rêve en Pâques qu'on bazarde au prix du pétrole pour des cols blancs et des corbeaux. Et oui, on m'a
Hervé, tu ne nous as pas parlé de Hugo Boris.
Et non, eh oui, j'ai toujours quand l'habitude même. De dire quelques
mots. Il n'a pas écrit qu'un premier roman.
Non. C'est un auteur qui est né en 79, c'est un auteur français. Hein, et donc ça lui fait 40 ans cette
40
année.
Ans.
Oui, 40 ans.
Le bel âge.
Il a commencé par faire des études politiques avant de se lancer dans sa carrière d'écrivain. Et il a rédigé une première nouvelle en 2003. Il se fait tout de suite remarquer, même avec cette première nouvelle, puisqu'il obtient déjà un prix, le prix du jeune écrivain. Et puis donc, 2 ans plus tard, on l'a déjà dit, son premier roman, Le baiser dans la nuque, donc obtient le prix Emmanuel Robles à Blois en 2006. 2 écrits, 2 prix. Et depuis, il a publié 4 romans, dont le dernier Police en 2016. Et ce roman est actuellement en cours d'adaptation pour le cinéma. J'ai lu ça, hein, tout simplement, pardonnez-moi. Hein. Ce qui fait, on peut dire que du jeune écrivain en 2003, Hugo Boris est devenu un grand écrivain. On peut le dire.
Eh bien, revenons au baiser dans la nuque. On continue ?
Allons-y. Le ciel est bâché, l'air froid, piquant. Un jour lugubre éclaire la pièce. Février et sa caricature sur un même portrait. Elle est venue seule. Elle porte sur les épaules un châle qui glisse sans cesse, comme une mèche infernale ramenée derrière l'oreille à chaque instant. Elle n'arrive pas à faire passer une phrase, bute, s'arrête, recommence. Il croit l'aider en lui dictant les notes derrière son dos. Le clavier énerve ses mains, elle n'y parvient pas. Il ose tendre une main sur les touches, ce qu'il ne fait jamais, et pianoter lui-même pour lui montrer. Elle hoche la tête, recommence. Elle y parvient presque, recommence aussitôt. « Fa, fa, fa !» dit-il soudain en montrant du doigt la partition, comme on prend quelqu'un à témoin. Il est de 3/4 sur le côté, ne l'aurait pas fait s'il avait vu son visage. Elle ne dit rien, recommence du début. La phrase difficile s'approche. Elle se crispe à nouveau, accélère, prend de l'élan pour finir plus vite. Trébuche. C'en est trop. Sous ses coudes, d'affreuses notes retentissent. Il lève les yeux, elle pleure dans ses mains. Il est tétanisé, désemparé, mort de honte, et en colère malgré tout, comme on l'est devant les larmes incomprises. Elle essaie de parler, cela la fait pleurer de plus belle. Elle répète
« J'y arriverai pas ».
Bêtement, il fait non de la tête. « Mais si !» Elle finit par montrer du doigt une touche éloignée dans les aigus et avoue brutalement à travers ses larmes.
« Je n'entends plus. »
Un silence suit, dans lequel tombent les aveux lorsqu'ils sont terribles. Éperdu, il demande. « Même avec tes appareils ?» Elle hoche affreusement la tête. « À partir d'où exactement ?» Elle incrimine une touche, un mi de la 6e octave. Il ne veut pas y croire. « Tu n'entends plus les aigus et tu ne me l'as jamais dit » souffle-t-il comme à part soi. Il se taise longtemps d'un silence prolongé et dangereux. On doit absolument aboutir, déboucher sur la parole. Louis baisse la tête. Comment a-t-elle pu faire semblant ? Les larmes s'interrompent. Fanny regarde l'écran noir de la télévision comme une bouche d'ombre au fond de la pièce. Il la regarde, voudrait lui dire quelque chose. Non, il y a encore cette larme qui glisse doucement sur l'arrondi de sa joue, plus désespérante que toutes les autres, parce qu'elle est seule. Il lève la main, l'approche doucement de son visage, tourne, touche la larme du doigt qui éclate et disparaît. Surprise, elle se tourne vers lui et sourit très belle en baissant les yeux. Dans le silence de la pièce, on discerne le chuintement de la tuyauterie et la respiration tranquille de la chaudière. L'irruption de ce bruit régénère le silence, le rend plus insupportable encore. Il faudrait parler, dire quelque chose de consolant. Ne lui a-t-elle pas dévoilé la vérité ? Ne connaît-on pas la fin ? Elle sera sourde, point. Fanny se mouche, sèche ses larmes qui lui restent. Louis, qui la regarde à la dérobée, lui trouve un air bizarre, farouche. Il la voit tout à coup retirer une prothèse, puis l'autre, les poser d'un seul geste sur le piano. Il y a comme un léger vague dans son regard. Puis elle place ses mains sur le clavier. Une pluie de notes retentit dans la pièce, des notes propres, fluides, ponctuelles. Le sang lui monte aux joues. Louis regarde cette sourde qui se suicide sur son piano. C'est un beau piano droit, Petrov, since 1864. Ses courbes laquées dessinent des reflets noirs, profonds et obliques, dans lesquels il écoute Fanny immobile. Il les regarde, ses mains bondissantes qui s'agitent sur le clavier, ses mains de sage-femme, claires et encore douces, ses mains plus souvent caoutchoutées, trempées d'eau et de sang, plongées dans la chair des femmes. Elle vide la partition sans prendre le risque de s'interrompre. Il lui parle dans son dos et elle n'entend pas. Alors il lui touche l'épaule. Elle se retourne et lit sur ses lèvres. Rythme bon, presque pas de faute. Je pense juste, aurait pu appuyer, reprise du thème. Recommence. Une fois Fanny en allée, il s'est assis dans le canapé et Bobby. Il regarde le piano, lui trouve un air de ne pas y toucher. Un air de propreté comme il faut, quelque chose d'ironique qui semble lui dire dans son immobilité sage « Je ne suis qu'un meuble, je n'y suis pour rien ». Il regarde cette pièce vide qu'il ne connaît pas, où elle était encore, voilà 5 minutes. Il se lève, s'assoit sans toucher au clavier, cherche la place exacte où elle était, la position de son corps, de ses bras à demi levés, veut retrouver en tâtonnant la position juste, se glisser dans le souvenir qu'il a d'elle. Il a rallumé la lampe près du piano, coincé la sourdine, étouffé l'orifice de ses oreilles, éteint le vent, la tempête. Il joue maintenant et il écoute. L'harmonie n'a pas beaucoup de sens. Reste le rythme. Ce rythme sans lequel la musique ne peut exister, ce rythme qui la précède en tout et qui existe sans elle, dans le roulis du train, sous les pas, dans le froissement des arbres, le bourdonnement du frigo, le battement de la branche sur la vitre, le passage du jour à la nuit, le mouvement de l'eau, le moindre geste. Ce rythme qui fait de la musique une durée avant d'être une mélodie, une alternance de sons et de silences entremêlés qui donne aux phrases leur respiration. Lit les notes entre elles, inséparables. Il lui reste ça, le souvenir. Les notes qui ne lui parviennent pas, arrêtées par le double obstacle de la sourdine et de la cire dans ses oreilles, sa mémoire les restitue. Inconsciente, mnémotechnique qui comble les vides de son jeu. Ce n'est pas si mal, non. Il joue longtemps pour lui-même et s'arrête, fatigué, retire les bouchons de cire de ses oreilles, pense à aller dormir. Un regard dans sa main, ils ont gardé leur empreinte. Une forme leur est inversée, intimement symétrique, comme un moulage. Si intime qu'il préfère les cacher, les ranger dans sa poche. Il n'entend plus souffler le vent. Il n'en est pas sûr, mais il se lève, s'approche de la vitre noire, scrute son jardin. Il neige. De cette neige qui embellit tout, rend aux ruines leur virginité comme la maternité aux filles de rien.
Un sourire un peu plus appuyé que d'habitude, qui trahit sa timidité nouvelle. Il se sent un peu maladroit, confus, comme deux amis réconciliés qui viennent de se retrouver. La neige a recouvert le jardin, la pièce baigne dans une flaque de lumière blanche un peu laiteuse. En entrant, tout lui paraît bouleversé, comme si elle n'était pas venue depuis une éternité. Louis a simplement basculé le piano à la perpendiculaire du mur. L'instrument dévoile la peau fragile de son dos, une mince paroi en bois clair. La table d'harmonie est à nu, une planche taillée dans un épicéa de Hongrie, traversée de barres diagonales en bois massif. Pour la première fois, elle le voit s'installer au clavier. Il se sent sûr de lui. Elle s'en est allée, lui est revenue. C'est qu'elle ne repartira plus. Il l'invite à faire le tour. Il est venu la chercher par la peau des fesses à la maternité. Elle n'a plus qu'à obéir, préfère se laisser faire, intriguée par cet homme qu'elle ne connaît décidément pas. Elle contourne l'instrument et disparaît derrière.
Retire tes appareils.
Les deux contours glissent dans sa main qu'elle vide sur le sommet du piano. Elle pose ses doigts à plat sur le bois. Il est tiède. Louis, d'un geste sûr, fait résonner l'instrument. Elle se sent d'abord aussi indiscrète que derrière une porte à écouter une conversation personnelle. Elle écoute avec ses mains. Mais l'indiscrétion n'est pas moindre. Les vibrations irradient ses doigts, franchissent le poignet, remontent doucement jusqu'au coude, passent, affaiblies dans l'épaule, viennent mourir dans sa poitrine. Elle sent parfaitement dans ses mains quand le piano s'exclame, ralentit, s'adoucit, ou au contraire prend une voix sentencieuse. Elle fait glisser ses paumes sur la planche, dans l'intervalle oblique des barres de table. Les frémissements du bois lui parlent un langage qui n'est pas aussi articulé que celui du clavier, mais qui ont sa logique. Elle a l'impression diffuse de pouvoir toucher la musique. Et la vague impression de toucher Louis m'échasse vite cette pensée. Pour elle, la musique deviendra bientôt cela, un fourmillement dans les doigts, vivant, fragile. Cette pensée l'apaise. Sourde, il lui restera ça, une main qui console. Ses paumes lui disent que Louis s'est arrêté de jouer. Il se lève, il lui sourit en faisant un signe de la tête qui veut dire « à ton tour ». Il s'approche de la fenêtre. Il a tellement changé en une semaine. Elle se relève et reste un instant immobile. Que faire? Comment remercier? Elle se sent arrogante d'être partie ainsi, sans lui dire rien, sans penser qu'il déménagerait son salon pour elle et d'être revenue les mains vides. Elle hésite à s'asseoir, fiche ses deux contours, le rejoint près de la vitre. « Qu'est-ce que tu as joué ?»«
Un truc à moi. » »«
À lui ? Elle a manqué ça ? » Si elle avait su, elle n'aurait jamais enlevé ses appareils. Et il refuse de recommencer.
« Évidemment !»
dit-il content de lui. Elle rit, fait semblant de lui taper sur l'épaule. La vitre s'embue sous leur regard. La neige soulevée de plis est une nappe étendue sur la végétation morte. Au milieu, une table en fer pétrifiée par la neige, un rond blanc en suspension sur trois pieds en circonvolution complexe. Un vestige de l'été abandonné là, saisi par le froid. Elle s'écarte de la fenêtre pour aller retrouver le piano. Il la regarde se retourner. Elle porte un pull d'homme qui flotte un peu autour de ses reins.
À la fin de la leçon, il accompagne sur le pas de la porte. Le sapin n'avait qu'à laisser les fils du téléphone tranquille. L'autre n'y est pas allé de main morte. Elle a remis ses tours d'oreille et voilà qu'ils ne se parlent plus, redeviennent timides, réinventent le silence. Les branches nues où s'égoutte la pluie désolent son jardin noir et brillant. Au revoir. Il regarde la rue, seul, au fond de l'impasse sur laquelle s'installe la nuit. Elle va partir, elle se revoit arriver ici il y a quelques mois, la porte fermée, être sur le point de rentrer chez elle. Elle va partir, fait un pas, mais soudain se retourne, ouvre sa main, la pose sur la joue de Louis. Comme on dit adieu, merci, presque malgré elle. Un très court instant, lui sourit doucement, à peine, le temps de se retourner, de s'en aller, avant qu'il ait eu le temps d'être troublé. Thank you.
Faire juste une petite parenthèse, je voudrais revenir sur notre choix de septembre dernier. Tu te souviens ?
Oui, exactement. C'était « L'Amérique m'inquiète » et autres récits de Jean-Paul Dubois.
Voilà. Tu nous avais dit, tu nous avais loué l'auteur en disant que c'était un grand.
Oui,
c'était vraiment un grand. Et bien, en fait, on ne s'était pas trompé.
Parce qu'il a obtenu le Goncourt.
Exactement. Depuis. Avec son dernier roman, publié aux éditions de l'Olivier, qui s'appelle « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ».
Exactement.
Voilà. Et je me souviens que ce bouquin, je l'avais trouvé à la bibliothèque, comme quoi il faut flâner dans les bibliothèques.
Tout à fait.
C'est un bouquin qui a été mis en rayon, un petit peu en valeur, là, qui m'a tapé dans l'œil et que j'ai découvert comme ça. Bien.
Ah oui. Catherine, tu adores ça, flâner dans les bibliothèques.
Non, pourquoi ?
On peut dire que ça a été ton métier, mais tu adores ça, y retourner comme
j'y
ça.
J'y retourne tout le temps, évidemment. Comme j'aime flâner dans les librairies. Disons que les librairies ont un avantage sur les bibliothèques, c'est qu'elles ont des piles.
Donc on peut jouer
sur les volumes. En bibliothèque, c'est plus compliqué parce que c'est à plat, il n'y en a qu'un. Mais j'adore leur table de nouveautés ou leur coup de cœur parce que tout d'un coup, c'est quelqu'un qui nous souffle à l'oreille. Tiens, ça, je l'ai lu, c'est bien.
Ça pourrait être pas mal.
Et c'est super.
Ouais, c'est super.
Et puis, on peut tout essayer. Autant en librairie, on va hésiter à acheter un livre
Autant en bibliothèque, on peut se tromper.
On va emprunter 10 livres, il y en a peut-être qu'un qui va vraiment nous plaire. Celui-là, on va après en librairie l'acheter pour le garder.
Exactement.
Ou l'offrir.
Ah oui, ça s'offre beaucoup, facilement, un livre. À Noël, moi, j'offre toujours des livres.
Très bien. Et puis, les paquets, c'est plus facile à faire, les livres.
C'est plus simple qu'empaqueter qu'un vase, oui.
Allez, on cause un petit peu. Je vous dis comment j'organise des fois mes cadeaux de Noël. Je ne fais pas des paquets et je n'offre pas un livre à une personne. Je suis devant ma famille, évidemment, comme tout le monde à Noël, et j'ai devant moi quelques tas de bouquins. J'ai sélectionné 4 ou 5 livres que j'ai achetés en plusieurs exemplaires. Et je dis les titres des bouquins et j'en parle un petit peu aux membres de ma famille. Et après, je leur dis, vous choisissez celui que vous voulez. Mmh. Et donc, en fonction de ce que je leur ai dit, mais évidemment, j'ai choisi des bouquins plus ou moins jeunes, etc., pour que ça plaise. Je sais bien faut que ça plaise à tout le monde, quoi. Et puis chacun, donc, prend le bouquin qu'il veut. Voilà.
Ah ouais, c'est pas
comme
mal.
Ça. Ouais, c'est un bon système.
Et comme ça, pas de paquet à faire.
Pas de paquet à faire.
Moins de gaspillage.
Moi, j'offre des bons cadeaux dans les librairies.
Oh, bon, oui, mais
il n'y a pas de transmission, là.
Mais en même temps.
Mais c'est sympa quand même.
Quand on offre des livres, c'est souvent à des gens qui sont lecteurs. Et le risque soit de se tromper, soit d'offrir un livre que la personne ait déjà lu est grand.
Oui, est grand. Mais non, avec mon système, comme je dis aux gens, vous choisissez le livre que vous voulez, ils prennent celui qu'ils n'ont pas lu, au cas où ils en auraient lu un.
Bon, on reprend peut-être ?
Peut-être.
Et oui.
Allez, on reprend.
L'homme a l'air strict. À cause de son physique, à la Anthony Perkins, de sa maigreur, de ses cheveux gris sales, de son menton anguleux, de sa figure un peu écrasée. Mais surtout parce qu'il est très concentré. Il démonte le panneau supérieur et la fourche de la sourdine avec une facilité déconcertante. Un homme qui connaît le chemin n'a pas besoin qu'on le lui indique. Louis a dit de venir quand même, que c'était intéressant à voir. Elle vient, invitée pour autre chose que de la musique, ou presque. Elle épie l'intimité de l'instrument, les innombrables cordes d'acier sévère qui descendent et disparaissent dans les profondeurs du piano, vissées à plusieurs rangées de chevilles en quinconce. Le panneau dévoile un enfer de mécanismes précis et délicats qui se soulèvent, se cognent, se frôlent, se poussent, coulissent, basculent, rebondissent. Une ossature de bois, de feutre, de cuivre et d'acier autour d'un châssis de fonte, un puzzle de clous dérisoires, de vis minuscules, de ressorts délicats, d'écrous ridicules, de lacets fragiles, des rangs impeccables de pièces en bois toutes tatouées, numérotées, gravées, étiquetées. « Il part du là !» écrit Louis, tandis que l'homme coince un biseau caoutchouté entre deux cordes obliques de la quatrième octave. Des pièces intelligentes, patiemment serties, vissées, cousues et collées les unes aux autres. Une machine venue d'une autre époque où cohabitent encore la carcasse de feutre, la dureté métallique de l'acier et la chaleur du bois. Il cogne la fourche de son diapason, en glisse la tête ronde dans le creux de l'oreille, fait sonner la touche et se penche immobile pour comparer les deux notes. Il recommence en pinçant entre ses lèvres le bout arrondi du diapason. Il y a dans son regard une concentration intransigeante. Il sort d'une sacoche en cuir une longue clé coudée munie d'un manche en bois. Le contour de ses ongles est sombre, d'un noir incrusté, indélébile, qui, dit l'artisan, trahit mieux que les gestes 20 ans de métier manuel. Il enserre une cheville dans l'extrémité de l'outil et le coude appuyé sur le dessus du piano pèse sur le manche avec l'avant-bras. La cheville se resserre doucement sous la contrainte. L'homme fait sonner la note à nouveau, ajuste plus précisément la tension de la corde en faisant levier. Satisfait, il déplace son coin biseauté et le pince dans l'intervalle des cordes suivantes. Lentement, il progresse pas à pas vers les aigus, d'octave en octave, étouffant de son triangle de caoutchouc noir une ou deux cordes à la fois, comparant toujours la note qu'il obtient à celle de son octave de référence. Il monte une à une les cordes au diapason, décline chaque note, fausse, il s'y attarde, il revient 3, 4, 5 fois. Sans cesse, il répète les mêmes gestes, fait sonner inlassablement la même touche avant de passer à la suivante, imposant au piano une musique stridente, lugubre, répétitive. Fanny écoute avec une sorte d'inquiétude, regarde avec commisération le piano qu'on malmène. Elle tend une main apaisante sur le bois blessé, puis l'autre écoute. Elle entend une à une ces notes dépouillées, répétées à outrance, sans saveur, si froides quand elles ne sont pas mélangées. Le piano proteste, tremble quand l'homme déplace sèchement l'outil. Entre eux s'installe un rapport ambigu, un accord tacite, une douce violence de maréchal Ferrand que l'homme s'impose, que le piano accepte. L'instrument se resserre peu à peu, se raffermit, rend des sons plus précis, moins lâches. Louis, en retrait de Fanny, regarde l'homme avec un air soupçonneux, attentif au moindre de ses gestes, à chaque note qu'il produit, se permettant parfois une remarque que l'homme fait mine d'ignorer, sous le cahier amusé du meuble ouvert. Alors qu'il s'approche des extrêmes aigus, les chevilles deviennent moins accessibles. L'homme échange son biseau caoutchouté contre un coin en bois aux manches filiformes qui lui permet de pincer les cordes plus en aval. Parvenu à l'extrémité du clavier, il dévisse la tête de la clé, la remplace par un embout plus lourd. Il s'assoit à l'autre limite de la banquette, choisit sans l'ombre d'une hésitation un biseau plus épais, s'affaire dans les graves où les cordes sont plus épaisses, moins nombreuses. Il souffre mieux encore. Sa bouche se tord, il a mal au dos, à la nuque. Les notes résonnent dans son crâne, froides, chirurgicales, l'épuisent. Elle observe avec fascination le chemin sophistiqué de la note, la touche qui s'affaisse, déclenche un doigt de feutre, cogne doucement une minuscule enclume de bois solidaire d'un marteau ovoïde qui s'abat, attaque la corde, retombe immédiatement pour lui laisser la liberté de vibrer, jusqu'à ce que le doigt lâche la touche, libère un mince étouffoir feutré qui vient l'éteindre. Tous ces détours hypocrites pour un son instantané. Du doigt, Louis désigne une touche que l'homme enclenche et relève lentement en écoutant la note produite comme pour isoler l'instant précis de son éclosion. Il prend un air affecté et il écrit patiemment. Tu vois, toute la question est là quand tu joues une note. Est-ce que tu la pousses ou est-ce que tu tires la touche ? Fanny cherche le piège, y renonce pour lui faire plaisir.
Je la pousse puisque j'appuie dessus.
Il a un sourire vainqueur. « Il faut la tirer » gribouille-t-il ravi. De poursuivre. « Si tu pousses une touche, puis une autre, tu oublies la première, alors elle remonte toute seule, indifféremment. Alors que si tu la tires doucement, tu peux tirer la suivante en même temps et décider de la manière dont la note va se terminer, s'enchaîner aux autres. » Et d'ajouter « Superbe, les grands pianistes ne poussent jamais les touches. » Ils les tirent. Leurs mains peuvent courir, glisser, voler, ralentir, s'apesantir, caresser, bousculer, mais pousser des touches, jamais, jamais, tu m'entends ? Dis. Poliment, Fanny acquiesce du menton, regarde se débattre avec l'instrument, l'homme qui, paraît-il, ne sait pas en jouer.
À son tour, Louis disparaît derrière le piano. Fanny ressent un trouble, quelque chose comme du trac. Il doit être en train de toucher la table d'harmonie comme elle la première fois. Il ne réapparaît pas. Elle essaie de se détendre, s'efforçant de jouer de son mieux. Il n'émerge toujours pas. Elle n'y tient plus, se lève et dit « À toi !» Elle ne s'entend pas le dire, mais effectivement, il se lève et passe au clavier. Il ne fait pas de commentaires, sans que ce soit de l'indifférence, ça s'assoit comme si c'était normal, son tour. Délicat, il glisse sous ses fesses un coussin emprunté au canapé, alors qu'elle s'y laisse tomber et le regarde jouer, une main distraite plantée dans les cheveux. Elle le contemple attentive dans son silence. Il porte une large salopette en jean noir qui lui donne des allures d'ouvrier fordien, pas la salopette indigo qu'il avait sur lui à la maternité, une autre. Elle ne serait pas plus étonnée que ça de voir dépasser une clé de 12 de sa poche ventrale. Quoique ses mains sur le clavier aient une grâce un peu féminine qui contraste avec la virilité lâche de ses bretelles. Ses doigts échauffés, souples, se déplacent sans effort. Il a croisé les genoux, assis de travers en dilettante, un bout de pied fainéant sur la pédale. Elle ne va pas se contenter de le regarder, pas cette fois. Revancharde, elle porte une main à sa poche, sort l'un de ses appareils lentement, comme pour ne pas être prise en faute, et l'amène dans l'oreille droite. Elle l'écoute. Il le lit dans son regard, ses yeux brillants. Il s'arrête, veut se fâcher, mais y renonce aussitôt. Ce serait ridicule.
Je travaille là-dessus, c'est un début. C'est pas bon, faut pas m'écouter.
Elle éclate de rire. Il rougit, il est gêné. La préfère sourde. Depuis combien de temps l'écoute-t-elle ? Elle sourit. Elle a le pouvoir. Ça l'amuse. Finalement, voyant qu'il attend, elle consent, retire son appareil d'un geste très lent et provocateur, en le regardant droit dans les yeux, l'air mutin, le sourire aux lèvres.
« La salope !»
pense-t-il en souriant à son tour. Elle le nargue avec un regard gitan, sensuel, pousse au crime. Et brusquement, il la désire. Cet homme-là a un secret. Elle le sait, le sent, le tait. Il n'y a pas que son allure de Britannique. Il y a sa tristesse certains jours. Comme un chagrin en intérim, un silence qui pleure. quelque chose de veuf. Le dernier accord s'éteint, un sourire de Joconde flotte sur ses lèvres. Elle ne dit rien, son visage parle pour elle. Elle a la mine joyeuse et échevelée d'une fille qui a trop dansé, heureuse et belle comme une femme grosse, une femme libre.
Eh bien, notre émission touche à sa fin. Chers auditeurs et auditrices, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle lecture d'Hervé ou Catherine. Ce sera le tour de...
Ça devrait être mon tour,
hein. Eh oui,
ça sera logiquement. Le tour de
Catherine. Parce qu'il y en a qui partent en vacances.
Il y en a qui sont... Ils ont de la chance. Le titre, ou le titre, est-il déjà choisi?
Évidemment que je vais te le dire tout de suite.
Très bien.
Aucune chance.
Eh bien, ce sera la surprise.
Exactement.
Comme d'habitude.
Même pour moi.
Nous vous souhaitons à tous, chers auditeurs, de bonnes lectures. Et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Au revoir.
Au revoir.